Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine, et précisément de l'éducation sexuelle. Attention, terrain miné ou tabou dans de très nombreux pays, de l'Afrique à l'Amérique, en passant par l'Europe. L'éducation sexuelle est au mieux un sujet de débat de société, au pire un enjeu de guerre culturelle, entre courants conservateurs et progressistes. L'éducation sexuelle est pourtant essentielle à la santé, au bien-être, à l'autonomie des enfants et adolescents, à la prévention des agressions sexuelles. En Afrique subsaharienne, par exemple, plus de 60% des jeunes ne savent pas comment se transmet le VIH et comment s'en protéger, selon l'ONU-SIDA. Alors, comment élaborer un programme complet et consensuel? Et chez vous, les voisins et les voisines, qu'en est-il de l'éducation sexuelle dans votre pays? Est-ce un tabou, un sujet de polémique ou bien un enseignement comme un autre? Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 50 41. Vous êtes déjà très nombreux à avoir posté vos réactions, vos témoignages. Je vous propose tout de suite d'ailleurs d'écouter un constat pour cet enseignant qui est au Togo.
Bonjour, 8 milliards de voisins. C'est Panté Waibou depuis Sokodé, c'est dans le Togo. Selon moi, l'éducation sexuelle est aujourd'hui inévitable dans les écoles. Moi, je suis enseignant et quand tu parles de la sexualité aux enfants, aux élèves, nous voyons comment ils sont intéressés, nous voyons comment cela capte leur attention. Et donc, je pense qu'on doit instituer cela dans toutes les écoles. C'est inévitable.
Merci Waibou pour ce message. Vous continuez de poster vos réactions au 33 7 64 45 51 41. Franck Burbage, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous avez participé à l'élaboration du projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité au Conseil supérieur des programmes de l'éducation nationale. Vous êtes aussi membre de la CIVIS, c'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants. Vous êtes inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement la matière intéresse les jeunes. Vous êtes d'accord avec le constat de Waibou?
Absolument.
La matière, voir, ça les passionne.
La matière intéresse les jeunes. Il faut que l'école joue pleinement son rôle. On s'est constamment posé cette question en faisant les programmes.
Justement, on va en parler. Également avec nous, Hélène Lobinia. Bonjour.
Bonjour, madame.
Vous êtes présidente de l'APEL, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, c'est-à-dire de l'enseignement privé sous contrat avec l'EPTA, c'est-à-dire très majoritairement à 90% les écoles catholiques en France. Nous serons également en ligne avec nos correspondants, David Thompson à Miami aux États-Unis et en Suède, Ottilia Ferré à Stockholm, où malgré le deuil national depuis la tuerie dans une école pour adultes hier, le pays est l'un des plus avancés au monde sur la place de l'éducation sexuelle, de l'école maternelle au lycée.
8 milliards de voisins.
Et de voisines.
8 milliards de voisins. On est ensemble.
Et tout de suite, nous sommes en ligne avec notre correspondant aux États-Unis. Bonjour David Thompson.
Bonjour.
Vous êtes en Floride, à Miami, la Floride qui, depuis quelques années, est devenue le laboratoire des politiques conservatrices, en particulier en matière d'éducation. Rappelons-le, en 2022, le gouverneur républicain Ron DeSantis, qui a promis de faire mourir le wokisme, je cite, a fait voter une loi baptisée par ses détracteurs « Don't say gay ». Cette loi, en fait, interdit à un enseignant de l'école primaire au lycée de parler d'homosexualité avec ses élèves. Alors, dites-nous, David, qu'est-ce que cette loi a changé concrètement, notamment dans l'éducation à la sexualité ?
Alors cette loi a créé un climat de grande anxiété d'abord au sein du corps enseignant qui ne sait plus du tout ce qu'il a le droit ou pas le droit de dire à ses élèves puisque le texte de la loi est relativement flou et il a été rendu encore plus flou par toutes les décisions de justice puisque ce texte a été évidemment immédiatement contesté par toutes les associations de défense des droits LGBT. En fait le texte, pour faire simple, interdit aux enseignants du primaire jusqu'au lycée, de la maternelle jusqu'au lycée, de parler parler d'orientation sexuelle avec leurs élèves. Alors évidemment, ça a posé un problème d'abord aux enseignants, mais aussi évidemment aux familles LGBT, puisque les familles LGBT répondaient, mais attendez, ça veut dire que nous n'avons pas le droit de parler de ce que nous sommes au sein de l'école, et les enfants n'ont pas le droit de parler de, mais bien tout simplement de leur famille dans l'environnement scolaire. Donc ça a créé évidemment un climat d'anxiété générale au sein de l'enseignement public en Floride.
Un mouvement est également apparu, David Thompson, en Floride, qui vise à censurer certains livres ou manuels scolaires accusés de contenu inapproprié, je cite, hein, dans les écoles. Ce mouvement a depuis essaimé dans tous les États républicains des États-Unis. De quoi s'agit-il ?
Tout a commencé là aussi par une loi votée par le gouverneur ultra-conservateur de Floride, Ron DeSantis, qui permet aux parents de contester la présence de certains livres dans les bibliothèques scolaires. C'est-à-dire que n'importe quel parent ou finalement n'importe quel contribuable de Floride a le droit de participer à un conseil scolaire et de dire voilà, ce livre dans cette bibliothèque propose un contenu sexuel problématique, je demande donc à le retirer. Du coup, on a insisté à un mouvement finalement de censure de tout un tas de livres dans les bibliothèques scolaires qui, il faut le dire, ont tous en commun deux choses, soit de traiter de questions sexuelles et de questions LGBT, ou alors de questions raciales. Et on a assisté à un mouvement de censure de livres qui, pour certains, font partie des grands classiques de la littérature américaine et internationale.
Et tout cela a commencé avec un mouvement de mères conservatrices, hein, les Moms for Liberty, durant la pandémie de Covid-19.
Absolument, mouvement qui est devenu très puissant dans tous les États-Unis, qui a maintenant un rôle politique vraiment, vraiment, vraiment très, très fort aux États-Unis. Tout a commencé pendant le Covid, quand ces maires ont assisté au conseil scolaire pour contester les restrictions sanitaires, le port du masque en particulier dans les écoles. De là, elles ont commencé à s'intéresser au contenu des programmes scolaires, notamment les livres qui étaient dans les bibliothèques, et elles ont commencé à passer des revendications anti-masque aux revendications finalement anti-LGBT. Et les Moms for Liberty aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent dans la plupart des États américains et qui a eu une influence politique et qui a fait des écoles un champ de bataille politique et un levier de mobilisation de l'électorat conservateur.
Justement, David Thompson, vous qui êtes immergé dans la politique américaine, est-ce que vous diriez que l'éducation sexuelle est un des éléments aujourd'hui de la croisade culturelle, présenté un petit peu comme une forme de remise à l'endroit du bon sens?
En tout cas, oui, les questions scolaires ont été au cœur de cette campagne, au cœur de la campagne présidentielle américaine, puisque Donald Trump a repris à son compte tous les arguments qui avaient été lancés en Floride, qui avaient été testés, si j'ose dire, en Floride, ce laboratoire conservateur, et les questions trans, les questions de l'usage des toilettes dans les écoles. Est-ce que quelqu'un dont l'idée peut aller dans des toilettes qui ne correspondent pas à son genre de naissance, ça c'est devenu là aussi un levier de mobilisation très important pour l'électorat conservateur qui s'est vraiment crispé sur ces questions-là, en surpolitisant certains cas tout à fait emblématiques dans certaines écoles. Donc oui, absolument, ces questions d'éducation sexuelle dans les écoles, ces questions LGBT dans les écoles sont devenues un élément clé de la bataille culturelle aux États-Unis, un élément clé de la vie politique américaine.
Ouais, parce que relié à l'orientation sexuelle et relié à l'identité sexuelle. Cette guerre culturelle contre les courants progressistes a été largement reprise par Donald Trump durant sa campagne, vous le disiez, hein, mais à tel point que le président a promis d'abolir le ministère de l'Éducation accusé d'endoctriner les élèves américains. Où en est cet engagement ?
Absolument, c'était l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Abolir le ministère de l'Éducation. Il est en train, maintenant qu'il est président, de réfléchir aux moyens de le faire. Donc ses équipes sont en train de travailler sur le décret qui va conduire à cette suppression pure et simple du ministère de l'Éducation. Évidemment, ça passe par une loi du Congrès. Donc pour aller plus vite, il demande aux équipes d'Elon Musk de trouver les moyens et bien de le démanteler au maximum en attendant le passage de cette loi, le vote de cette loi par le Congrès. Finalement, en fait, ce que veut faire Trump, c'est un peu ce qui s'est passé avec la loi sur la loi, l'interdiction de l'annulation de la loi sur l'avortement par la Cour suprême en 2022, c'est-à-dire de rendre le pouvoir aux États, de rendre la gestion des écoles publiques aux États. Pourquoi ? Parce que chaque État va pouvoir décider des curriculums, chaque État va pouvoir décider de l'enseignement religieux ou non dans les écoles publiques, et donc les États conservateurs vont pouvoir comme ils le souhaitent, introduire plus d'enseignement conservateur, plus d'enseignement religieux dans leurs écoles publiques, ce qui est plus difficile actuellement avec un ministère d'éducation centralisé à Washington.
Ça sera l'objet d'une autre émission, la reprise en main de l'éducation aux États-Unis par la société, par les citoyens, dont ça n'est pas forcément le métier, notamment les parents. Merci beaucoup, David Thompson, d'avoir été en direct avec nous de Miami, en Floride, où il est 5h18.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Il est même 11h20 en heure de Paris. Franck Burbage et Hélène Lobigna. L'éducation sexuelle, est-ce que pour vous, c'est un élément d'affrontement entre courants progressistes et conservateurs en France? Hélène Lobigna, comment voyez les choses en tant que représentante des parents de l'école privée catholique en France?
Alors écoutez, c'est quelque chose qui pose question aujourd'hui. Nous avons effectivement eu plusieurs versions de ce programme. Aujourd'hui, je crois que la dernière mouture qui a été présentée en Conseil supérieur de l'éducation est quelque chose qui nous convenait assez, même si toutefois nous restons quand même vigilants sur la place des parents et le rôle qu'ils auront à faire, puisque c'est quand même une histoire avant tout d'information auprès des parents vis-à-vis de leurs enfants. Mais cette éducation relationnelle et à la sexualité est indispensable.
Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe aux États-Unis ?
Eh ben, écoutez, c'est peut-être un petit peu trop. De pouvoir censurer, que les parents puissent s'immiscer pour censurer les livres dans les établissements. Chez nous, il y a quand même une liberté pédagogique et donc on fait confiance au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique avant tout.
Alors justement, Franck Burbage, ce nouveau programme d'éducation sexuelle en France, pourquoi faire dans le fond ? Il y avait déjà 3 séances par an à chaque niveau qui n'étaient pas forcément respectées, qui souvent les enseignants n'avaient pas le temps parce qu'ils couraient après le temps pour boucler le programme scolaire. Pourquoi un nouveau programme d'éducation à la sexualité en France ?
Alors c'est pas pour un nouveau programme, il n'y a jamais eu de programme. C'est pas la refonte d'un programme. Il y avait l'obligation, depuis 2001, qu'il y ait des séances d'éducation à la sécurité, mais justement, il n'y avait pas de programme. Et il y avait, du coup, beaucoup d'endroits où ça n'avait pas lieu. Il y avait des endroits où ça avait lieu, où c'était extrêmement intéressant. Les infirmières scolaires ont fait un énorme travail. Mmh. Je pense qu'il faut leur dire merci pour ça. Mais il y avait aussi, du coup, des inquiétudes tout à fait légitimes, à la fois de la part des équipes pédagogiques, de quoi faut-il parler, et puis aussi de la part des familles. Et donc, je crois que l'important, pourquoi il faut un programme ? Il faut un programme pour qu'il y ait un cadre de référence commun. Et aussi, et c'est ce dont vous venez de parler, avec votre correspondant états-unien, c'est pour qu'on ait une autre approche qu'idéologique de ces questions. Mmh. Pour qu'on ait une approche proprement scolaire, pour qu'on se pose une question qui est celle de l'école. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'école peut faire ? Qu'est-ce que l'école doit faire ? Que les familles... Peut-être, il ne s'agit pas du tout de se substituer aux familles, ça c'est une grande inquiétude, mais il s'agit d'être en complément de ce que les familles font. La société fait aussi beaucoup de choses, bonnes ou parfois moins bonnes, mais l'école, qui est un lieu de culture, doit prendre toute sa place avec les principes qui sont les siens, et j'en dirais un seul, la laïcité, c'est-à-dire le respect infini de la personnalité des élèves, de leurs croyances, l'exigence de neutralité des professeurs ou des intervenants. Et notre République, qui n'est pas celle de Donald Trump, est assise sur ce principe qui devrait pouvoir, je l'espère, rassurer les uns et les autres.
Et surtout, un constat, vous l'avez entendu avec le témoignage de cet auditeur en début d'émission, l'éducation à la sexualité, évidemment, intéresse énormément les jeunes. Et si les jeunes n'ont pas d'éducation à la vie sexuelle et affective, Internet s'en charge pour eux, notamment via la pornographie. Parce que les chiffres sont édifiants sur le pourcentage d'élèves qui ont vu des éléments à caractère pornographique dès leur plus jeune âge.
Moi, je dirais que c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'on sait bien que les jeunes aujourd'hui sont victimes de violences sexuelles de manière très importante, parfois même dans le cadre, hélas, de certaines familles. Et là, la Ciivise a fait un énorme travail pour lever ce déni. et pour faire que ces questions-là, qui sont des questions extrêmement difficiles, viennent dans l'espace public, d'où on déduit une exigence de prévention. Hein, avec les moyens qui sont ceux de l'école. Ils se font parfois aussi des choses horribles les uns aux autres.
Justement, on va en parler parce que ça, c'est intégré au programme d'éducation à la sexualité. Hein, prévenir les violences sexuelles notamment. Il y a aussi les questions évidemment de contraception et puis la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre à voir. Restez avec nous dans quelques instants. Donc, on étudie ce nouveau programme, les sujets discutés avec les élèves. On va regarder aussi à quoi ressemble l'éducation sexuelle en Suède, où c'est davantage que 3 séances annuelles comme en France. Ça sera juste après La main sur le cœur, Aya Nakamura, chez 8 milliards de voisins.
Sur le chemin de ma vie, je te vois. C'est bizarre comme y'a pas d'hasard. Comment tu guettes, on dirait le chitane. Je sais pas comment faire, il m'a chopé. J'ai rien à donner, c'est compliqué. Cœur endommagé, j'suis bien fauché. Fauché. Coucou, coucou, toi. Tu veux yaga, yaga, beaucoup pas. Coucou, coucou, toi. Quand j'ai vu, tu peux d'être pour moi. Tu tombes à la tentation. Dégage, j'fais beaucoup. Ouais, beaucoup bien. Avec moi, c'est les vacations. Dégage, j'fais beaucoup. Yeah, beaucoup. On va se dire les choses en vrai. En toi je vois tout, je te jure. Tu pourras pas m'empêcher de connaître toutes tes faiblesses. Te faire chavirer, je le fais. Sur toi il fait magique, ouais. Nakamura vient du bendo. Est-ce que toi tu sais ce que je veux? Coucou, coucou toi. Tu veux yaga, yaga, beaucoup pas. Coucou, coucou toi. Quand j'ai vu, tu peux d'être pour moi. Tu tombes à la tentation. Dégage, j'fais beaucoup. Ouais, beaucoup bien. Avec moi, c'est les vacations. Dégage, j'fais beaucoup. Yeah, beaucoup. J'suis pas encore à toi, mais t'es loco. Avoue, il était temps. Ça, c'est la tentation. Oui, ça, c'est la tentation. Moi, c'est la tentation. Dégage, j'fais beaucoup. Avec moi, c'est les vacations. C'est la tentation, dégage, fais beaucoup. Avec moi, c'est les vacations, dégage, fais beaucoup.
Vous écoutez RFI, nous sommes en direct chez 8 milliards de voisins et aujourd'hui nous parlons éducation comme chaque semaine, mais plus précisément de l'éducation à la sexualité. Quelle éducation à la sexualité? On en parle parce qu'en France, le nouveau programme, ou plutôt un programme, comme nous le disiez Franck Durbage, a été adopté à l'unanimité. Donc c'est EVARS, c'est-à-dire c'est le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Adopté à l'unanimité par le Conseil supérieur des programmes. Vous avez participé à l'élaboration de ce programme, Franck Durbage. Il y a eu pas mal de débats. Il a été adopté à l'unanimité il y a quelques jours. Hélène Lobinia, vous êtes avec nous, présidente de l'APEL, c'est l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, c'est-à-dire essentiellement de l'enseignement catholique en France. Franck Durbage, peut-être dites-nous, qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces 3 séances annuelles pour chaque classe scolaire, hein, c'est bien cela.
Alors, c'est donc sur 15 ans.
De la maternelle, hein, au lycée.
On commence en petite section maternelle et on va jusqu'en terminale. Il faut d'ailleurs imaginer ce que ça donnera dans 15 ans, c'est-à-dire quand on aura une génération entière qui sera devenue adulte sur la base d'un tel enseignement. Bon, c'est un programme qui est à la fois qui est très progressif et très cohérent. Hein, il a 3 axes principaux. Hein, il y a un axe sur se connaître, grandir avec son corps. Il y a un axe sur les relations avec les autres, comment s'y épanouir. Et puis, il y a un axe sur trouver sa place dans la société.
Alors, ça commence à l'école maternelle élémentaire. Là, on est sur apprendre à se connaître, respecter les autres, prévenir les violences sexistes et sexuelles. On parle de l'intimité. Ouais. Déjà du consentement à l'école primaire?
Mais bien évidemment. Est-ce que vous voulez bien, est-ce que tu voudrais bien me donner ton crayon?
Oui.
Peut-être que tu ne veux pas. Et peut-être que j'ai du mal à accepter le fait que, et est-ce que, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais te le prendre à ce moment-là? Ou est-ce que je vais écouter ton nom? Et puis, si tu ne me dis rien, comment je comprends ce rien ? Est-ce que ça veut dire que tu es d'accord et que je te prends ton crayon ?
Donc c'est valable pour un baiser, par exemple, mais, à l'école maternelle.
Vous voyez qu'on va commencer comme ça. De même qu'on va commencer, c'est pas du tout évident. Par exemple, la notion même de violence n'est pas évidente. La notion de malaise, par exemple, vous voyez, quand est-ce qu'on est dans une situation où quelqu'un fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire ? Devant qui ?
Parce que l'autre est mal à l'aise.
Mais encore faut-il pouvoir identifier le malaise. La question très importante de la pudeur, à ne pas confondre avec la pudibonderie.
Hein? Alors ensuite, on arrive au collège et au lycée. Là, on parle de puberté, de relations amoureuses, de contraception, de prévention aussi des maladies sexuellement transmissibles, d'orientation sexuelle, d'identité de genre.
Alors, ça a été en débat, il y a eu des hésitations, il y a même eu des polémiques, mais il y a eu finalement, me semble-t-il, des décisions raisonnables parce qu'elles ont un sens didactique et pédagogique. On ne fait pas un programme scolaire avec des positions idéologiques pro ou contre quoi que ce soit. Par exemple, identité de genre, il y a eu une vraie hésitation. Identité de genre, je rappelle que c'est dans le code pénal, hein, l'article 225.1 qui définit les discriminations. Donc c'est un élément du droit positif. Mais à partir de là, c'est très important. Quand est-ce qu'on en parle ? À quel âge on en parle aux élèves ? Et on a finalement, à un moment donné, il y a eu une hypothèse sur la cinquième. On a décidé que c'était trop tôt parce que c'était trop complexe comme notion à construire.
Sur la classe de cinquième. Parce qu'on a quel âge en classe de cinquième ?
En classe de cinquième, on peut avoir... Enfin, vous voyez, on est autour de 11-12 ans. Donc on a considéré que c'était trop tôt et qu'il fallait attendre d'être plus grand. On l'a positionné en troisième. Et puis, au lycée, au moment où on fait des sciences économiques et sociales, et puis de la philosophie. Parce que c'est un peu comme en mathématiques, on ne parle pas de calcul différentiel quand on est en cinquième, on attend.
Alors, quand vous dites « on a considéré », en fait, il y a eu des débats, hein, tout ça n'est pas... Hélène Lobinia, vous qui représentez les parents d'élèves de l'école catholique, quels sont les sujets de débat qui ont donné lieu à des modifications, à des compromis sur lesquels vous avez tenté de peser ?
Alors écoutez, l'un des sujets numéro un, c'est quand même la place des familles. C'est-à-dire d'avoir cette place des familles, au tout début dans les textes, elle n'y était pas. Alors peut-être par crainte de certains de voir les familles, comme ça peut arriver régulièrement, monter au créneau. Là, le but, c'est en fait de pouvoir informer les familles et de pouvoir en fait les mettre. Ce sont quand même les premiers éducateurs donc de ces enfants. Donc il faut qu'ils puissent accompagner leurs enfants dans cette relation en fait et dans ce qui pourra être fait. Donc c'est important que les familles soient mises à l'intérieur de ce programme. Mais il y a aussi qui a posé sujet
et dans le
la
respect
maturité,
de leur religion, puisque vous représentez les parents d'élèves de qui leur ont religion, mis leurs enfants dans une école catholique. Les parents d'élèves ne sont pas tous catholiques.
Absolument, hein, ils ne sont pas tous, c'est la diversité en fait de nos établissements. Il y a effectivement différentes religions, mais c'est le respect de l'autre, le respect de cette diversité et du fait que l'on puisse construire ensemble avec cette diversité.
Est-ce qu'il y a des termes, par exemple, dont vous avez demandé de diminuer la fréquence ? Est-ce qu'il y a eu débats sur les termes, sur l'écriture ?
Il y a eu même des demandes qui ont été de respecter la maturité de chaque enfant, de chaque jeune, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du programme, il y avait au départ des choses qui étaient construites dès la maternelle et qui ne nous semblaient pas appropriées.
Par exemple,
C'est-à-dire qu'on parlait un peu trop souvent de l'identité.
Identité de genre.
Voilà, c'est bien que ce soit maintenant repoussé plus tard, en fait.
Un garçon,
la cinquième.
Une fille ou ni garçon ni fille, par exemple.
Oui, c'est ça. Pour nous, c'est trop tôt. Donc, en cinquième, c'était tôt également. Que ce soit maintenant, monsieur l'a dit, en troisième, voire même au lycée, eh bien, effectivement, ça prend en compte la maturité de chaque élève et ils peuvent se construire différemment. Donc
les
c'est
mots
très bien.
Asexualité, les mots homophobie, transphobie, par exemple.
Ils ont été, on va dire qu'ils ont été réintroduits dans quelques parenthèses d'explicitation, mais avec une fréquence, on va dire, moindre que dans la version du programme qui avait fait problème. Oui. Sur les familles, moi je partage ce souci. Il faut trouver un bon équilibre entre ce qui est la liberté pédagogique qui est inscrite au code de l'éducation
absolument.
Et le droit,
de l'enseignant,
des familles à être informées et dans la version qui a été votée énonce ce droit des parents à être informés des objectifs d'ensemble par les instances responsables année par année pour que les parents puissent s'approprier ce programme et j'irai jusqu'à dire peut-être
s'il
aussi
est compatible avec les orientations religieuses des parents par exemple.
Mais notre République est laïque, c'est-à-dire que les programmes scolaires sont par définition respectueux des croyances aucun programme scolaire dans ce pays ne porte atteinte aux croyances. Il ne serait pas constitutionnel, si c'était le cas.
Alors justement, vous parliez de l'importance de la famille et des parents dans l'éducation à la sexualité, en parallèle de l'école. Écoutez les commentaires et les questions d'auditeurs sur ce sujet, postées sur notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Abdel Fattah est au Tchad.
Bonjour, chers auditeurs et auditrices de RFI. Je suis votre frère du Tchad, Abdel Fattah Abdelkhadir Ibrahim. Par ailleurs, directeur d'un établissement scolaire à N'Djamena, l'éducation à la sexualité devient pour nous un défi à relever. Car si nous essayons d'insérer dans notre programme scolaire, c'est comme si c'est enfreindre la loi coutumière de la société. Donc le seul ici que les enfants peuvent être initiés à la sexualité, c'est par la matière de la biologie et puis quelques matières religieuses. Voilà, ainsi, je vous remercie.
Bonjour, milliards de voisins, c'est Eustache Kabest depuis Kisangani dans l'est de la République démocratique du Congo. Faut-il une éducation à la sexualité à l'école? Bien, je dis oui, car dans certaines provinces de la RDC, les valeurs culturelles et religieuses influencent négativement la perception de la sexualité, parfois jusqu'en faire un sujet tabou. Donc, une bonne éducation sexuelle à l'école permettra de prévenir des risques tels que les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et autres, et permettra également de préparer le jeune à une sexualité saine et responsable. J'ai une question pour notre invité. Comment concilier les différentes perspectives culturelles, religieuses et même politiques sur l'éducation sexuelle afin de garantir un programme scolaire inclusif et respectueux de divers contextes tout en assurant la protection et l'autonomisation des jeunes dans le monde, en Afrique et en particulier en RDC. Merci beaucoup.
Alors, une question vaste et compliquée. Franck Burbage, vous êtes professeur de philosophie à l'origine.
À l'origine, c'est mon je ne veux pas dire c'est mon seul métier, c'est... mais c'est mon principal métier.
Là,
en
c'est
réalité.
Une question de devoir de philo. Hein.
Oui, mais je crois justement que la réponse est peut-être de nature philosophique en un sens extrêmement large. C'est-à-dire qu'un programme scolaire doit être assis sur des savoirs solides,
Notamment scientifiques,
à commencer par les savoirs scientifiques, mais aussi sur des médiations culturelles qui sont notre patrimoine commun. Je pense aux arts, je pense aux lettres. Vous avez d'ailleurs passé une chanson qui est dans notre patrimoine contemporain, qui est une très belle chanson d'amour. La poésie joue un rôle extrêmement important. Et sur les questions qui sont des questions difficiles, il faut ouvrir l'espace de la réflexion. Et c'est ça qui peut rassurer. C'est-à-dire un programme scolaire n'est pas un lieu dogmatique où on imposerait une doctrine. Un programme scolaire ouvre aussi l'espace pour réfléchir ensemble. Et dans cette réflexion ensemble, je pense qu'il n'y a pas à bannir tel ou tel système de croyance en disant c'est bien ou enfin voyez ou c'est mal plutôt. Il n'y a pas non plus à dire c'est bien. Il y a à assumer dans un espace de réflexion et on peut faire réfléchir les élèves qui sont dès leur plus jeune âge si on trouve les bons moyens pour ça. Pour que justement ces séances d'éducation à la vie affective et relationnelle dans le premier degré, affective et relationnelle et à la sexualité dans le second degré, soient des séances de réflexion partagée.
Alors on entendait le premier auditeur, Abdel Fattah, qui disait chez nous au Tchad, l'éducation sexuelle, pour qu'elle soit conforme à la loi coutumière, il ne peut y avoir d'éducation sexuelle que par le biais de la biologie, c'est-à-dire la description finalement des organes génitaux, voire aussi d'aborder la contraception, mais pas tellement plus. Hélène Lobinia, certains milieux religieux, catholiques et musulmans en France considère que l'éducation à la sexualité, c'est l'affaire de Dieu et de la famille. Est-ce que c'est aussi la position de l'école privée catholique en France ?
Pas du tout. En fait, l'éducation à la sexualité, aujourd'hui, elle doit être accompagnée, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il y a ce programme. Il faut savoir que dans l'enseignement catholique, il y a ce respect de la dignité de l'enfant, donc de chaque jeune, pour pouvoir l'aider à se construire. Cette relation école-famille qui existe dans l'enseignement catholique est tout à fait privilégiée, avec justement, on fait confiance à notre équipe éducative, à nos nos directeurs d'école et à nos équipes éducatives, mais également donc à ce qui est donné, ce qui nourrit en fait nos enfants. Donc c'est ce respect à la dignité en respectant les valeurs qui nous animent, mais également le respect de l'autre et tout ce qui peut être fait pour aider à la construction. C'est quand même important. Il y a certains parents qui sont pas à l'aise pour parler sexualité avec leurs enfants et ça s'entend. Donc il faut aussi pouvoir les aider, les outiller, et c'est un des rôles qui est fait chez nous.
Mais ils sont d'autant moins à l'aise quand les enfants ont eu des séances d'éducation à la sexualité à l'école et qu'ils reviennent ensuite à la maison en disant je voudrais bien qu'on en parle. Toi, comment tu te situes en tant que mon père, ma mère, par rapport à ce que j'ai entendu à l'école?
Alors, donc, écoutez, c'est bien parce que ça
peut être inconfortable aussi.
Alors, ça peut être inconfortable, mais là, il faut peut-être ensuite se référer à un adulte de confiance. Ça peut être un grand frère, un oncle, une tante, quelqu'un d'autre, s'ils ne sont pas à l'aise avec ce sujet-là. Mais il faut en parler.
C'est surtout Google dans ces cas-là.
Oui, mais alors Google, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose, comme les réseaux et ce genre de choses. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne réponse.
Alors, un message de Fossi qui est à Djang au Cameroun qui nous dit « Moi, je suis pour une éducation qui sensibilise aux questions de grossesse précoce et aux abus sexuels, mais la question de la sexualité relève tout de même de l'éducation familiale et non scolaire parce qu'il peut y avoir des dérives. Les violences sexuelles, notamment dans le milieu immédiat de l'enfant, parce qu'on le sait, statistiquement, les violences sexuelles faites aux enfants se produisent en général dans l'environnement immédiat de l'enfant, c'est-à-dire dans sa famille, dans son environnement juste après la famille. En quoi l'éducation à la sexualité peut protéger en amont, voire libérer la parole d'enfants qui ont été agressés?
Alors ça, c'est une des grosses réflexions de la Civise en ce moment. Je pense que d'abord, il faut honnêtement reconnaître que c'est une opération assez complexe. Ça passe par exemple par la connaissance de ses droits et de ses devoirs. Hein, parce que il y a des éléments d'ordre juridique, il y a des éléments d'ordre moral qui interviennent. Mais plus généralement, ça passe par ce qu'on pourrait appeler une sorte de sensibilisation à la question du respect, hein, respecter les autres, être respecté soi-même. Donc cela s'apprend de manière extrêmement progressive et il faut aussi être attentif et à ne pas confondre les choses. Les séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité ne sont pas des séances destinées à la révélation de problèmes qui pourraient exister. Mais c'est vrai que c'est comme une graine qu'on va planter, peut-être qu'un jour, elles vont produire un effet. Et donc là, ça veut dire qu'il faut aussi que les personnels qui vont intervenir, professeurs, infirmières scolaires, etc., soient extrêmement attentifs, extrêmement sensibles, et soient prêts, je dirais, avec la finesse qu'ils possèdent professionnellement, à suivre la situation d'un enfant qui apparaîtrait, même dans le malaise, même en difficulté. Donc oui, c'est pas une prévention immédiate. C'est comme une petite graine qu'on va planter et qui va produire ses effets.
Ça a suscité des débats ou pas, la question de la façon dont on parle des agressions sexuelles faites aux enfants?
Oui, ça suscite des débats parce que est-ce que nos professeurs sont aujourd'hui suffisamment formés pour pouvoir en fait avoir cette détection? Est-ce que c'est leur rôle? Est-ce que les enfants arrivent à se livrer à leurs professeurs? C'est pas toujours évident, même au sein de leur famille. On voit que c'est quand même compliqué. Donc effectivement, ce besoin de formation.
Ça suscite
lors de ce
une inquiétude chez les enseignants finalement.
Oui, tout à fait.
Mais vous voyez, c'est pas évident pour un enfant de savoir où est la violence. D'autant plus que les agressions sexuelles dont ils sont victimes, quand c'est dans le cadre de la famille, on sait que c'est par des proches.
Donc
c'est
par des sceaux du secret, surtout.
C'est par des personnes de confiance. Donc il y a quelque chose là qui demande beaucoup de délicatesse, mais vous voyez, beaucoup d'instruction, beaucoup de réflexion, de sensibilisation pour que un élève puisse, au fond, prendre conscience du fait qu'il est dans une situation anormale, inacceptable. Et là, l'école peut poser non pas toutes les pierres nécessaires, la famille doit le faire aussi, mais l'école peut y contribuer.
Rappelez-nous juste la réalité des chiffres dans une classe de 30 élèves.
On dit qu'il y a 10%, voilà, qui a 1, 2, 3, enfin vous voyez, on va jusqu'à...
Enfants
victimes de violence et d'agressions sexuelles. C'est quand même un
sur une
chiffre
classe de 30.
Extrêmement important. Hein, d'une manière ou d'une autre, indirecte, parfois par des proches, effectivement, donc dans une situation extrêmement difficile, et parfois on voit bien, si ça n'est pas pris en charge quand les enfants sont jeunes, ça peut durer des années, et c'est des années de souffrance, hein, pour des destins qui sont brisés. Donc, on peut espérer que ça va changer quelque chose.
Juste un mot sur la contraception. Pendant longtemps, l'école catholique n'était pas favorable au fait de parler très précisément de contraception. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors écoutez, ça appartient à chacun. C'est vrai que c'est la responsabilité de chacun. Je pense que dans les familles, il faut que les sujets se discutent.
Sauf que là, ça fait partie du programme. Hein.
Ça fait partie du programme, donc chacun va en parler en fonction de la maturité de chacun également. Mais... c'est comme pour les vaccinations sur le papillomavirus. On a fait un énorme, en fait, sujet là-dessus, alors que ce qui était reproché chez nous, c'était pas le fait que nous soyons contre l'enseignement catholique, n'était pas contre ces vaccinations, mais contre le fait que nous ne puissions pas avoir les suivis et les personnels pour pouvoir faire en fait ces injections post-opératoires. Donc voilà.
Parce que ça sous-tendait que les adolescents avaient une vie sexuelle. Ouais.
La liberté d'être soi. C'est ça à quoi il faut aussi éduquer les enfants. Ça peut inclure la contraception ou non. Donc là, il s'agit d'ouvrir justement des possibles et pas de les fermer.
Alors restez avec nous. Nous partons dans quelques instants pour la Suède, où l'éducation sexuelle a une vraie place dans le cursus scolaire.
8 milliards de voisins,
parce que nous sommes tous des voisins.
Direction la Suède donc maintenant, un pays qui a été frappé, vous le savez, hier par une tuerie de masse dans une école pour jeunes adultes à 200 km de Stockholm. Bilan provisoire, une dizaine de morts, des blessés graves. La Suède est un pays où le programme d'éducation sexuelle, par ailleurs, est reconnu comme l'un des plus complets au monde. Nous sommes en ligne avec notre correspondante dans la capitale suédoise. Bonjour, Ottilia Ferré.
Bonjour.
Alors dites-nous exactement comment est enseignée la sexualité et depuis quand en Suède ?
Alors, il faut savoir que la Suède est le premier pays au monde à avoir instauré une éducation sexuelle formalisée et obligatoire. Donc, cet enseignement existe depuis 1955 et il est obligatoire dès le primaire. À partir de 11 ans, on commence à aborder des différences biologiques entre les sexes, la compréhension et le respect du corps humain. Ensuite, au collège, on commence à parler de puberté, de changements hormonaux et émotionnels, de consentement, d'orientation sexuelle et d'identité de genre, et bien sûr de prévention des maladies sexuellement transmissibles et l'usage des contraceptifs. Au lycée, ensuite, on cherche à développer l'esprit critique des élèves. On questionne la sexualité dans la société, les aspects juridiques comme le consentement, encore une fois, le harcèlement sexuel, les droits des femmes et des minorités. Les jeunes discutent aussi de ce qu'est une relation saine et respectueuse. En fait, il n'y a pas vraiment de tabou. On parle un peu de tout ici.
Il n'y a pas vraiment de tabou. Donc, mais est-ce qu'il y a des sujets qui font débat en Suède ?
Alors, je dirais pas qu'ils font débat, mais ce sont des sujets très ouverts. Parents, enfants et personnel éducatif communiquent beaucoup entre eux. Et il faut le dire, les résultats sont là. La Suède affiche, par exemple, l'un des taux les plus bas d'Europe pour ce qui est des grossesses chez les adolescentes ou des infections sexuellement transmissibles. Le programme d'éducation sexuelle et de genre dans les écoles suédoises est régulièrement mis à jour pour s'adapter aux évolutions sociétales, comme l'impact du numérique, de la pornographie ou des violences sexuelles. Donc, même si les notions de consentement, d'égalité entre les sexes, de lutte contre le sexisme et des orientations sexuelles existent depuis 1994. Elles ont encore été renforcées en 2022 et ces thèmes peuvent parfois certes susciter quelques débats, mais c'est surtout chez certains groupes conservateurs. Ceci dit, le programme reste largement soutenu par la société.
La particularité du programme d'éducation sexuelle en Suède, c'est que c'est pas un cours isolé, hein, c'est enseigné de manière inclusive dans le programme scolaire, c'est ça?
Tout à fait. En fait, l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école ne se cantonne pas à des séances dédiées. On parle d'égalité des sexes et on remet en question des normes socialement construites au quotidien en classe, de manière informelle ou sous forme de fil rouge, dans tous les enseignements dispensés, que ce soit en cours de biologie ou d'histoire, par exemple. Ceci dit, ce n'est bien entendu pas un système parfait. C'est justement pour cela qu'il est en constante évolution et adaptation. En 2018, par exemple, l'inspection suédoise des écoles s'est rendu compte que les enseignants manquaient de formation. Du coup, en 2021, elle est devenue obligatoire. C'est l'éducation nationale qui s'en charge, mais aussi les associations pour l'éducation à la sexualité et de droits LGBTQI+.
Et les professeurs peuvent aborder aussi plus facilement la sexualité de manière transversale dans n'importe quel cours. Donc on voit bien que c'est très central, très en place. Merci beaucoup Otilia Ferré, en direct de Stockholm. Franck Burbage, est-ce que la commission, le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, EVARS, qui va se mettre en place normalement à la rentrée prochaine, dans toutes les classes, de la maternelle à la terminale. Est-ce que vous avez fait des comparaisons? Vous avez regardé ce qui se faisait à l'étranger? Est-ce que le cas de la Suède a été discuté?
Oui, il a été pris en compte. Enfin, il n'y a pas de modèle. La France est autonome dans ses décisions, à sa manière de république, si je puis dire. Mais on s'est bien évidemment intéressé, et on s'y est d'autant plus intéressé qu'effectivement, sans penser qu'on dispose d'une sorte de baguette magique qui réglerait tous les problèmes, il semble bien, et c'est assez renseigné maintenant d'un point de vue scientifique, que là où il y a une éducation à la sexualité mise en place, ça produit un certain nombre d'effets, notamment au niveau des
grossesses précoces.
Des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles. Mmh. Et si on ne serait-ce que cela, c'est déjà très précieux.
Est-ce que vous avez le sentiment, Hélène Lobinia, vous qui représentez l'école catholique en France, que la Suède va trop loin? Parfois.
Non, je suis ravie de voir que la Suède, trouve un écho dans ce que nous avons dans l'enseignement catholique. C'est-à-dire, votre journaliste a parlé de cette véritable relation école-famille. Donc, je suis ravie de voir que c'est un écho positif là-bas et que c'est déjà quelque chose que nous avons dans l'enseignement catholique et qui ne peut qu'être appuyé et donc valorisé. J'ai noté également qu'elle parle de cours de biologie et d'histoire dans lesquels on peut éventuellement appliquer ce programme sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, je suis contente. C'est un pas que l'on devrait faire également chez nous, cette transversalité au niveau des matières, que l'on puisse justement avoir des professeurs qui soient formés ça et là pour pouvoir intervenir et pouvoir agir.
Parce que justement, à partir du collège, quels sont les enseignants qui vont prendre en charge séances annuelles d'au moins 2 heures chacune?
Ça n'est pas seulement à partir du collège, c'est-à-dire que c'était d'ailleurs dans toutes les auditions que le Conseil supérieur des programmes a mis en place, c'était une demande réellement unanime que cette éducation puisse être prise en charge par une communauté éducative élargie avec les ressources de l'ensemble des disciplines, demande d'une interdisciplinarité plus large.
Mais concrètement, sur qui ça va tomber? C'est ce que se demandent les profs quand même.
Je pense que ça demande en établissement une réflexion. Il faut que les professeurs soient volontaires. Il faut effectivement, il va y avoir des plans de formation, mais il faut aussi que les professeurs puissent
C'est budgété les plans de formation pour les enseignants, ça?
Absolument. Il y a un plan national.
Avec des crédits d'heures supplémentaires pour l'enseignement catholique?
Il y a un plan national de formation qui est mis en place. Il va y avoir des plans académiques de formation, et les représentants de l'enseignement catholique sont en demande
crédits.
Voilà, ça, ce sont des questions budgétaires sur lesquelles, qui sont en ce moment extrêmement délicates, mais qu'il y ait des équipes pédagogiques justement larges, parce que vous parliez des sciences, mais il faut parler des lettres, il faut parler des arts. Dans la très belle chanson qu'on a entendue tout à l'heure, j'ai noté « Je n'ai rien à donner, c'est compliqué ». Et imaginons séance...
Là, les enseignants, ils attendent des crédits pour être mieux formés. Parce que globalement, ça ne va pas tomber sur les profs de maths. Ça va tomber sur les profs d'histoire géo, les profs de biologie. Qui ?
Je pense que l'intention, l'engagement national et l'engagement de la ministre, c'est un engagement vers une interdisciplinarité et une intercatégorialité plus large. Je pense que la question est aussi une question artistique, c'est aussi une question poétique. Il faut des mots pour le dire. Allons-y.
Merci à vous. Pour conclure, on va laisser la parole à un auditeur qui a posté ce message à Dakar sur notre compte WhatsApp. Écoutons-le.
Bonjour, 8 milliards de voisins. J'espère que vous allez bien. C'est votre voisin de Dakar, Diegui Sako. Pour moi, la géopolitique de l'éducation sexuelle, ça me renvoie de mes années passées au village, lorsque je faisais le collège dans les années 2007. La première fois, notre prof nous dessinait le croquis de l'appareil génital féminin. La manière qu'on était choqués, car pour nous, ces choses-là, on ne devait pas en parler, on était tellement pudiques. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, la modernité, avec l'Internet, on s'est éduqué grâce aux créateurs de contenu. Personnellement, j'essaie d'identifier où se trouve actuellement le clitoris, à quoi sert le clitoris, comment manier le clitoris. Et franchement, alhamdoulilah. Et bonne émission à vous.
Merci à Djegi pour ce message. Bon, il faut que l'école rattrape Internet, hein, finalement. C'est ce qu'on comprend. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Franck Burbage, membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Et c'est à ce titre que vous avez participé à l'élaboration du projet de programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, EVARS, donc au Conseil supérieur des programmes, qui va être appliqué à la rentrée prochaine. Et vous êtes par ailleurs inspecteur général honoraire de l'éducation nationale. Merci à vous, Hélène Lobignat, présidente de l'APEL, l'association des parents d'élèves de l'enseignement libre, donc de l'école catholique en France. On se quitte avec Queen Rima de Guinée, qui est finaliste du prix RFI Découverte.
Ame fani soto fe ororo ina soto teme di la mane ororo nama luna aga siga hara fema teme kankama kesa luna aga siga gineng bata fama afa bamba ma nama luna aga siga hara fema teme kankama. Il est mon chocolat, on touche pas mon pain à moi. Le gars il est sucré, il est mieux le, il est mon Nutella, la la la, bino bino bino. Fa fentene la sia ira mula kana mangine pinyama amam fatagne a fatagne a fatabere bere de salima. Il sait jouer, il sait jouer, il sait jouer sur le canapé. Amam fatagne a fatagne a fatabere bere de salima. Il sait jouer, il sait jouer, il sait jouer sur le canapé. Il est mon chocolat, on touche pas mon pain à moi. Le gars il est sucré, il est mieux le. Mon café, un big bomba. Défait d'une vraie bomba. Tic tac, mon nom est bonbon. Et n'a ma bébé, bébé, rama, didin, kéré, n'a pas rana, n'a bébé, bébé, rara, n'a rêve, payana, ragine, bébé, n'a pas touché, man, get Antoni, n'a pas rara, à sa rime, kéré, n'a pas géré, ma. Il n'a pas tofan, arayabu, à ma fa fentene, la sia ira, à moula, canna, manguine, pinyama, à ma fatarine, à fatarine, à fatabé, bébé, de salima. Il sait jouer. Il sait jouer, il sait jouer sur le canapé. Amon fatarine, a fatarine, a fatabere bere de salima. Il sait jouer, il sait jouer, il sait jouer sur le canapé.
Queen Rima, elle est de Guinée. La chanson, c'est Chocolat. Souvenez-vous bien. Le public est appelé à voter hein, sur RFI Musique jusqu'au 16 février pour choisir son artiste favori qui comptera pour une voix au sein d'un jury de professionnels. Et le jury est présidé, je vous le rappelle, par Angélique Kidjo. Donc, surtout, les voisins, votez et vous connaîtrez le nom de la lauréate ou du lauréat le 18 février sur les antennes et le site de RFI, donc pour le concours RFI Découverte. Voilà. Vous savez tout et vous allez sur le site de RFI Musique pour voter. Alors, merci, je remercie évidemment l'équipe. Juliette Brault, Delphine Cachin, Romain Dubrac, Thibaut Matta et Pauline Berthélémy. Et demain, nous nous retrouvons en direct. Nous parlerons de l'enregistrement des naissances. Quel avenir pour les enfants qui ne sont pas déclarés à l'état civil? Comment protéger leurs droits, notamment à la scolarité, mais aussi à la santé et à la citoyenneté? Quelle est la situation dans votre pays? Quelles améliorations ces dernières années? Vos messages et vos témoignages, bien sûr, nous intéressent. Vous nous écrivez au 30 33 7 64 45 51 41. Et puis si vous avez pris l'émission en cours de route sur l'éducation à la sexualité, évidemment, vous nous réécoutez en podcast sur l'appli RFI Pure Radio. Dans quelques instants, le journal sur RFI.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.